carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Annie Regon.
Bonjour, bienvenue dans le Carrefour des Arts. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la peinture et en particulier à la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Pour cela, nous avons invité à notre micro Madame Catherine Cardinal. Bonjour Madame.
Bonjour Madame.
Donc Madame Cardinal, vous êtes professeure des universités, actuellement enseignante à l'université de Clermont-Ferrand, où vous faites des recherches également sur la peinture en France au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous vous intéressez particulièrement aux figures du temps, car dans une autre vie, si je puis dire, vous avez été conservateur d'un prestigieux musée d'horlogerie. Pouvez-vous nous en dire un petit mot?
Oui, en effet, dans une précédente vie, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la mesure du temps et de la notion du temps. Après avoir travaillé au Musée des Arts et Métiers qui conserve une prestigieuse collection, j'ai été nommée conservateur du Musée international d'horlogerie qui se trouve dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, à environ 20 km de la frontière française. Et dans le même temps, alors que j'occupais ce poste, j'ai tenu à fonder, bien sûr, entourée d'une excellente équipe, notamment d'un président très actif, j'ai tenu à valoriser et à encourager les recherches, les travaux sur la mesure du temps, mais aussi sur la notion du temps, en rapport souvent d'ailleurs avec les instruments à mesurer le temps, dans le cadre d'un institut qui portait le nom d'Institut L'Homme et le Temps.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une femme peintre et de plus académicienne et qui, de surcroît, a vécu dans les locaux de l'Institut et même est décédée, on peut dire, dans le pavillon ouest de l'Institut. Donc, elle a doublement sa place dans notre émission. Alors, qui est donc cette femme peintre qui a un superbe prénom bien de son temps, Adélaïde?
Adélaïde Labille, tel est son nom de jeune fille, est née en 1749 à Paris, dans un quartier tout proche de celui-ci. Il suffit de traverser la Seine pour retrouver l'endroit où elle a vécu enfant. Elle a vécu enfant rue Croix des Petits Champs, qui s'appelait à l'origine rue Neuve des Petits Champs. Là, son père tenait un magasin de colifichets intitulé « À la toilette ». C'est une jeune fille qui devait être épanouie dans ce domaine. Elle a eu l'occasion de rencontrer de belles dames dans la boutique de son père.
Très élégante.
Très élégante. Elle a même, paraît-il, eu le temps de fréquenter un moment la future Madame du Barry, qui, paraît-il, fut vendeuse dans cette boutique.
La vente mène à tout.
Adélaïde Labille-Guillard. Pourquoi Guillard? Parce que elle a épousé à l'âge de 20 ans, dans l'église Saint-Eustache, un certain Guillard. Et c'est ce nom qui est attaché à son nom de jeune fille, qui est attaché dans l'histoire, puisque Adélaïde a divorcé de ce premier mari pour se remarier. Peut-être que nous en parlerons un peu plus tout à l'heure.
Alors là, donc, nous sommes sur la rive droite, près de Saint-Eustache. Elle se marie et alors, et la peinture?
Et la peinture. Eh bien, très rapidement, elle a eu une vocation, puisqu'on sait que vers 14 ans, elle est entrée dans l'atelier d'un peintre miniaturiste français mais venu de Genève, un peintre qui l'a formée à la miniature. On peut dire que c'est la première technique qu'Adélaïde a apprise. Elle en a appris d'autres auprès de personnages célèbres. Peut-être parlons-en tout de suite.
Oui, bien sûr.
Je pense que les auditeurs connaissent Maurice Quentin de la Tour, le fameux pastelliste.
Et portraitiste.
Quentin de la Tour a suivi cet élève pendant, on le présume, environ 5 années. Et c'est quand même un certain nombre d'années, car on connaît le caractère assez autoritaire et bourru de Maurice Quentin de Latour.
Il n'avait pas très bonne réputation.
Et on peut présumer de ce fait qu'Adélaïde était une jeune femme, jeune fille à l'époque, vraiment pleine de charme, d'enthousiasme et de diplomatie.
Voilà, conciliante.
Conciliante.
Peut-être. Et donc là, elle se forme donc au portrait, si je comprends bien.
Elle se forme entre 1769 et 1774 au portrait. C'est d'ailleurs dans ce genre qu'elle va se faire connaître. Et c'est dans ce genre qu'elle est surtout connue.
Et qu'elle excelle.
Et qu'elle excelle, bien sûr. Mais elle eût pu exceller dans d'autres domaines, dans d'autres genres, si le temps lui avait permis.
Oui, elle lui avait laissé le temps, car voilà. Elle a une vie assez brève. Mais là, nous n'allons encore pas la tuer, si je puis dire. Oui. Alors, comment vit-elle avec ce mari? Le ménage, vous avez indiqué, n'a certainement pas été heureux puisqu'elle a divorcé.
Oui.
A-t-elle eu des enfants?
Adélaïde n'a pas eu d'enfants. Le mariage n'a pas été sûrement très passionné. Dès 1779, les deux époux d'un commun accord se séparent. Ils divorceront quand le divorce sera autorisé, en 1793. Donc, à 44 ans, Adélaïde divorce de ce premier mari, Nicolas Guillard. Revenons peut-être à l'année 74, après cet apprentissage chez Quentin de Latour, elle se fait connaître par une première exposition, à l'Académie de Saint-Luc.
Ah oui, qui était l'ancienne académie, donc qui précédait l'Académie des Beaux-Arts.
Dans cette académie, elle ne va pas cesser de se faire connaître, de se faire un nom. Et elle finit par rentrer en apprentissage pour apprendre la technique de l'huile auprès de celui qui va devenir son compagnon de cœur et qui plus tard sera son mari. Je veux parler de François-André Vincent. François-André Vincent est connu des spécialistes du néoclassicisme français, car c'est l'un des grands rivaux de David.
Voilà, et c'est lui que l'on a représenté avec des lunettes, me semble-t-il, un portrait assez amusant.
Oui,
et alors, peut-être est-elle l'auteur de ce portrait?
Elle est l'auteur de ce portrait. Et ce portrait a été présenté au salon de 1795, donc environ 15-20 ans après leur rencontre. Ce qui est intéressant, c'est que François-André Vincent lui apprend la technique de l'huile. Par conséquent, on peut dire que Adélaïde Labille-Guillard est une artiste accomplie qui connaissait donc trois techniques très différentes, deux très difficiles, en particulier le pastel, qui n'est pas une technique aisée. On remarque dans la personnalité d'Adélaïde cette persévérance, cette discipline qui caractérise, on peut dire aussi, son style. On en reparlera tout à l'heure, je pense.
Une travailleuse.
Une travailleuse.
Mais en même temps, une artiste. Et donc, elle apprend cette nouvelle technique, donc elle élargit son champ d'activité, si je comprends bien, avec ce nouveau maître, en quelque sorte. Donc, elle effectue, j'imagine, comme beaucoup d'artistes, des commandes. On doit lui commander peut-être des portraits, peut-être a-t-elle aussi reçu des commandes religieuses, des commandes d'œuvres mythologiques? Comment est-elle classée parmi les artistes?
Eh bien, elle fait ses premières armes donc au salon de l'Académie de Saint-Luc, puis ensuite elle fait ses armes au salon de la correspondance, en particulier en 1782, où elle se distingue avec Vigée Lebrun par des portraits. Et c'est là que l'on commence à parler des deux femmes et à s'extasier sur leurs capacités, sur leurs talents. Et aussi, c'est là qu'on commence à les considérer comme deux concurrentes. Donc, on est en 1782.
Et cette concurrence, en quelque sorte, dure toujours, puisque dans la postérité des deux artistes, il y a une certaine inégalité.
Une inégalité. Je voulais simplement passer de 82 à la date vraiment capitale de la carrière de l'artiste, puisque de 82, nous passons donc à 83, 1783, exactement le 31 mai 1783, Adélaïde est reçue comme membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et fait très surprenant, elle est reçue exactement le même jour que Élisabeth Vigée-Lebrun. Mais tout de même, différence notable, Adélaïde est soutenue par le corps des académiciens, par les peintres, tandis que Élisabeth Vigée-Lebrun, croit-on savoir, est soutenue par la reine Marie-Antoinette, qui, à tout prix, veut imposer son artiste favorite.
Voilà.
Et dès cet instant, en effet, le souvenir d'Élisabeth Vigée-Lebrun est intimement lié au souvenir de la reine Marie-Antoinette. Et si on s'interroge sur le pourquoi de la réputation d'Élisabeth Vigée-Lebrun et sur le pourquoi de la méconnaissance, de l'indifférence qui est vouée à Adélaïde, eh bien, on peut penser que Élisabeth et la reine Marie-Antoinette forment en quelque sorte un tandem qui
incontournable
qui a mis dans l'ombre la personnalité artistique d'Adélaïde.
Donc une académicienne. Alors est-ce que l'on sait ce qu'elle a fait à l'académie? A-t-elle pris part au débat puisque les comptes rendus de l'académie sont connus? Donc a-t-elle émis des opinions?
Oui,
a-t-elle
oui,
eu des coups de cœur ou au contraire des phobies? Enfin, est-ce qu'on connaît un petit peu son travail à l'académie?
Oui, elle a par exemple souligné qu'il était très dommage que les académiciennes n'aient pas beaucoup de privilèges, puisque les académiciens avaient par exemple le privilège d'être professeurs, le privilège, toutes sortes de privilèges, tandis que les femmes eh bien, n'avaient pas la possibilité de progresser dans la hiérarchie de l'académie. Et elle a trouvé ça très, très dommage et elle a essayé d'instituer un nouveau statut des femmes académiciennes. Elle a proposé de leur donner le titre de conseiller, puisqu'elles ne pouvaient pas progresser.
Devenir secrétaire, par exemple.
Voilà, ou professeur.
Ça n'était pas possible.
Non, elles ne pouvaient pas enseigner. Et bien entendu, il était impensable qu'elles pénètrent dans un atelier de modèles vivants.
Ah, bien sûr, le nu, c'était quelque
impossible.
Chose qui était réservé aux hommes. Même s'il y avait des femmes qui posaient. Mais il n'était pas question que des femmes peignent. J'imagine des modèles nus masculins,
non,
ce serait vraiment.
Non. Il y a autre chose. Vous m'aviez posé tout à l'heure la question sur les personnalités qui défilaient devant son chevalet. Et en effet, on est très impressionné quand on fait le bilan des œuvres qu'elle a réalisées, de voir qu'Adélaïde Labiguillard a traversé la fin de l'Ancien Régime, la Révolution. Et qu'elle a connu le directoire et que, à toutes ces époques, elle a représenté les personnages les plus connus, les personnalités les plus en vue. Et l'on pourrait énumérer ainsi quelques noms, par exemple dans le milieu de la noblesse, de la politique de l'Ancien Régime, on peut remarquer le duc de Choiseul, on peut remarquer le comte de Provence, le prince de Beaufremont, le duc de Beaufremont, merci.
Oui, c'est vraiment une famille très importante du nord de la France et c'est certainement pas par hasard qu'il est venu faire son portrait chez elle. On peut dire que ça, c'est vraiment très bien.
Et l'on peut remarquer peut-être surtout les filles de Louis XV, les princesses Adélaïde, Victoire, Élisabeth. L'on peut d'ailleurs souligner que en 1787, Adélaïde Labiguillard a reçu le titre de peintre de mesdames.
Mesdames, donc, qui étaient à ce moment-là les tantes du roi.
Oui, les tantes du roi.
Voilà, mesdames-tantes, disait-on. C'est des personnes assez importantes aussi pour les commandes artistiques. Elles ont été souvent un petit peu mises en retrait, mais malgré tout, on s'aperçoit qu'elles ont été vraiment parfois peut-être plus en avance même que le reste de la cour pour certaines choses. Alors donc, la Révolution arrive, là,
et là aussi on trouve.
Et nous allons nous retrouver après la pause. Alors, nous reprenons donc notre émission concernant Adélaïde Guillard-Labille, notre héroïne du jour, avec Madame Catherine Cardinal, qui est professeure d'histoire de l'art. Et donc, nous en étions arrivés à l'époque révolutionnaire, qui pour les artistes est une époque assez difficile, puisque en 1793, l'Académie explose. Hein, il n'y a plus d'Académie. Les académiciens qui ne sont pas en France ne rentrent pas en France. Et ceux qui sont là, eh bien, certains vont prendre le parti du roi, ça se passera très mal. Et d'autres vont tout simplement déchirer leur diplôme et devenir... En fait, vouloir rentrer dans le rang, vouloir redevenir des citoyens comme les autres. Et pendant 2 années, il n'y aura plus d'académie. Donc, que se passe-t-il à ce moment-là dans l'atelier de notre héroïne Adélaïde ?
Bien des choses. Adélaïde est confrontée bien à la terreur. Elle doit même se réfugier en Seine-et-Marne, à Pontault-en-Brie.
C'est pas tellement loin de Paris.
C'est pas loin de Paris, mais à l'époque, c'était une propriété qui était assez éloignée des tourments de la Révolution. Là, elle vit avec son compagnon Vincent, avec ses élèves.
Car elle a quand même des élèves.
Adélaïde a été un excellent professeur, toujours soucieuse du confort, de la santé de ses élèves. D'ailleurs, dans son autoportrait que conserve le Metropolitan Museum of Art à New York, elle est représentée avec 2 de ses élèves favorites, Mademoiselle Capet et Mademoiselle de Rosemont. Mademoiselle Capet deviendra une artiste assez célèbre, tandis que Mademoiselle de Rosemont décédera seulement 3 ans après cet autoportrait.
Alors, c'est d'autant plus important de l'avoir conservée.
Exactement. Donc, revenons à la période révolutionnaire. Adélaïde vit tant bien que mal dans cette propriété éloignée de Paris. En 1793, donc sous la terreur, elle va subir un choc terrible. Elle est contrainte de détruire toutes les images représentant des personnalités de l'Ancien Régime qui se trouvent dans son atelier.
Oui, c'était le règlement de l'époque. Donc, elle s'y conforme, mais certainement, ça devait être une épreuve.
Et elle a surtout dû détruire une peinture qui est considérée comme sa première peinture d'histoire, représentant le frère du roi recevant un chevalier de l'ordre de Saint-Lazare. Cette peinture d'histoire était l'objet de ses plus grands soins, car elle espérait se faire un nom dans ce genre. Elle souhaitait progresser encore comme elle l'a fait toute sa vie. Et cette peinture a bien sûr disparu. On en connaît seulement quelques esquisses.
Des dessins quand même.
Oui,
des dessins préparatoires peut-être.
Oui, on peut reconstituer ce qu'a été ce portrait. Mais Adélaïde en a tellement souffert que on dirait de nos jours qu'elle était dépressive. Elle a été atteinte de dépression. Et ensuite, elle a mis assez de temps à exposer à nouveau. Tout de même, en 1795, elle est très à l'honneur au Salon Libre de portraits grâce à des portraits de multiples personnalités du temps, dont Robespierre.
Ah oui, tout de même.
Robespierre, et on peut voir également dans la galerie de portraits qu'elle a exécutée, Talleyrand.
Ah oui, c'était quand même des personnages qui étaient aux commandes de l'État.
Oui, et même Robespierre, paraît-il, a été très honoré d'avoir un portrait réalisé par Adélaïde Labille. On a l'impression, quand on lit les quelques pièces d'archives que nous possédons, qui ont d'ailleurs été remises à jour par 2 historiens, et il faut souligner le travail de 2 historiens, un historien du début du XXe siècle, le baron Portalis, qui en quelque sorte redécouvert Adélaïde, qui a publié en 1902 une étude sur elle, et en 1971, une étudiante de l'école du Louvre, Anne-Marie Passès, qui a réalisé une thèse de 3e cycle très intéressante présentant la vie et la carrière d'Adélaïde Labille-Guillard. Quand on lit les archives retrouvées par Portalis et Anne-Marie Passès, on se rend compte que c'est une femme qui était vraiment intégrée dans son temps, qui avait des relations sociales très importantes, qui était tournée vers l'extérieur, qui se plaisait dans le monde tout en aimant travailler.
Voilà, tout en étant quand même une travailleuse assez assidue.
Oui.
Alors donc en 1795, l'Institut en fait reprend les anciennes académies et s'installe dans les locaux où nous nous trouvons ici, donc à l'ancien Collège des Quatre Nations. Et je crois que Adélaïde va pouvoir bénéficier d'un appartement ici même.
Oui, en 1800 très exactement, elle se remarie avec son amour de jeunesse, François-André Vincent.
Son premier professeur,
son
donc.
Son premier professeur. C'est là que, eh bien, elle rejoint le domicile de son mari situé au Louvre. Mais 2 ans plus tard, en 1802 exactement, on attribue 2 logements distincts aux époux Vincent. Un logement pour monsieur, un logement pour madame. Et on leur attribue aussi 2 ateliers. Cela laisse penser qu'ils avaient une grande notoriété.
Oui, elle aurait pu avoir une vie vraiment très active et très fructueuse dans ce cadre magnifique.
Et oui, et elle avait, on possède l'inventaire après décès dressé après sa mort qui a surgi 1 an plus tard seulement, en 1803, le 24 avril 1803 exactement, si je ne me trompe pas. Eh bien, ce jour-là, eh bien, elle est décédée ici même, dans le pavillon du couchant, sans doute dans une chambre ayant vu sur le quai. Dans son inventaire après décès, on précise l'ameublement très raffiné de son appartement et on peut également imaginer sa coquetterie, son goût pour les toilettes. Une coquetterie que l'on retrouve transcrite par son pinceau, puisque ses œuvres sont remarquables par la minutie avec laquelle Adélaïde représente les toilettes, les dentelles, les mousselines, les satins. Tout cela, bien sûr, nous rappelle son enfance dans la boutique de son père.
Voilà. Alors donc, finalement, une vie qui a été assez brève et pas très, très heureuse, finalement. Heureusement qu'elle avait son art. Parce qu'elle n'a pas été heureuse en ménage. Et puis, l'épisode, évidemment, de la destruction des œuvres dans son atelier avait effectivement de quoi la marquer profondément et qui aurait pu prendre cette vie un second élan si elle n'avait pas été malade et décédée aussi jeune. Donc, on a quand même la chance d'avoir ses œuvres. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu des œuvres qui nous restent d'Adélaïde. Où peut-on les voir ?
On peut voir des œuvres à Versailles. On peut en particulier à Versailles admirer les grands portraits d'apparat de mesdames tantes du roi Louis XVI. Dans un salon de l'appartement de la reine, c'est d'ailleurs il est amusant de constater que dans le même salon se trouve le portrait de Marie-Antoinette et de ses enfants par Élisabeth Vigée-Lebrun.
Voilà.
Et là encore, on peut dire que deux artistes sont confrontés. On peut voir également au moins le portrait de Vincent au musée du Louvre.
Avec lunettes.
Avec lunettes, et très séduisant avec ses lunettes. On peut également voir ici et là des portraits, en particulier à Quimper, un très beau portrait de femme dans des... on peut voir également au musée Nissim de Camondo un portrait du prince de Beaufremont ou duc de Beaufremont, on ne sait
pas,
à vérifier. Si Adélaïde n'est pas très connue, et on peut dire c'est une litote méconnue, c'est parce que ses œuvres sont très dispersées. Et elles sont dispersées non seulement dans divers musées, mais surtout dans diverses collections privées aux quatre coins du monde. Les collections américaines possèdent un nombre assez impressionnant de portraits réalisés par Adélaïde. On peut remarquer dans toutes sortes de collections en France des œuvres. Et en ce moment même, sur le marché de l'art, il n'est pas... il n'est pas très rare de voir un portrait
En vente.
En vente.
Oui. On peut espérer. Avec une belle cote.
Une belle cote, mais enfin, Pour nous, c'est pas les cotes ne sont pas très
voilà, c'est
très
ça,
importantes.
Ce n'est pas ce qui compte, hein. Ce qui compte, c'est de pouvoir enrichir le catalogue. Et alors, c'est justement une des tâches auxquelles vous vous êtes attelé actuellement, donc d'essayer de retrouver certaines œuvres méconnues ou alors peut-être de réattribuer
oui,
également.
Oui, peut-être réattribuer. Par exemple, je pense au tableau de Quimper. Pendant longtemps, le portrait était attribué à Vigée-le-Brun. Et cela, c'est classique. C'est toujours le personnage le plus connu qui
sûr.
Remporte le
oui.
suffrage.
Il y a un adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Ça, c'est bien vrai aussi pour la peinture. Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, évidemment, sans le support visuel, mais avec des mots, comment on peut caractériser l'art d'Adélaïde? Et également, qu'est-ce qui différencie le style d'Adélaïde de celui d'Élisabeth? Parce que je pense que finalement, elle n'avait pas du tout la même façon de peindre. En particulier, la relation au modèle était assez différente, semble-t-il.
En effet, on peut dire que Madame Lebrun était une séductrice née. Et qu'elle aimait séduire ses modèles en les rendant beaux. Et par l'intermédiaire de ses modèles, elle se rendait très charmante. Élisabeth Vigée-le-Brun est vraiment le peintre des people de l'époque. On peut dire.
Oui, puisqu'en plus, elle a vécu aussi après à l'étranger pendant la Révolution. Elle a passé de longues années en Russie. Donc, elle a peint toutes les
oui,
personnalités de la
oui,
cour du tsar.
Exactement, on se pressait dans son atelier parce qu'on savait qu'on allait en ressortir beau pour l'éternité. Tandis qu'Adélaïde, elle, préférait être attentive aux caractéristiques de son modèle. Elle est d'ailleurs souvent très félicitée par les critiques d'art de son temps comme étant capable de répondre au principe de ressemblance qui était très en faveur à la fin du XVIIIe siècle. Vous savez que David a été l'un des grands peintres qui a renouvelé l'art du portrait au XVIIIe siècle et dans le sens de la ressemblance, dans le sens de l'expression de la psychologie du modèle. C'est le cas d'Adélaïde Labbé-Guillard. Elle a un art très rigoureux, on peut dire, mais c'est un art rigoureux qui est tempéré par le charme qu'elle donne à ses modèles, au naturel qu'elle leur donne dans les poses, et puis bien sûr à la beauté des costumes qu'elle sait très bien représenter, alors que Madame Vigée-le-Brun représente très facilement un fichu, une mousseline blanche. Adélaïde, elle, aime représenter les détails d'une toilette.
Oui, les broderies, les plis également. Elle met beaucoup de soin dans les plissés.
Oui, elle a l'idée, talent d'une grande coloriste au talent d'un dessinateur. On peut-être citer un ou deux comme exemple eh bien, les critiques de deux personnes. Du temps, je souhaiterais apporter par exemple une critique qui a été émise à propos du portrait de Vincent dont on a parlé tout à l'heure ou à propos de son autoportrait avec ses élèves en 1785. Citons par exemple la critique de Bachaumont à propos de l'autoportrait présenté au salon de 1785. Il disait « Unité d'action, plan net, attitude variée, vrai, naturel, grande intelligence du clair-obscur, ton sûr, coloris harmonieux, accord de la grâce et de la vigueur. » Accord de la grâce et de la vigueur, je crois que
très
c'est
élogieux.
Bien ce qui ressort de son art. On peut encore parler du portrait de son compagnon François-André Vincent présenté 10 ans plus tard au salon. On aime avoir le portrait de cet artiste estimable de la main de la citoyenne Guillard. Elle l'a rendu avec toute la ressemblance dont l'art de peindre est susceptible et cette qualité n'exclut pas de cet ouvrage le bon effet, le pinceau hardi, l'ingénieuse disposition de l'attitude. Les autres portraits de la citoyenne Guillard portent l'empreinte du même talent et ne laissent pas d'équivoque sur leur ressemblance avec les modèles qu'elle s'est choisis.
Très bien, eh bien, c'est vraiment une très, très belle critique qui est faite ici. Donc, Madame Cardinal, je vous remercie pour cette évocation. Et puis, je pense que maintenant, les auditeurs, certainement, quand ils entendront parler de cet artiste, dresseront l'oreille et surtout, iront découvrir les œuvres. Merci beaucoup.
Bien, c'est Adélaïde qui vous dit merci.
Merci.